Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Iseult Sicard, Arjuna Andrade, Léa Capuano et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Almin Elmansari.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Troisième épisode de notre série consacrée à la viande. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans la cuisine des abattoirs. Depuis la diffusion des vidéos de l'association L214, jamais la question du bien-être animal n'a été aussi présente dans le débat public. Et pourtant, les actes de cruauté n'ont pas cessé, comme en témoignent ces images choquantes tournées au début du mois dans un abattoir de l'Indre. Des images qui posent question, car elles jettent l'opprobre, semble-t-il, sur les ouvriers chargés de la mise à mort, quand c'est le système tout entier qu'il faudrait interroger. Et c'est juste ce à quoi nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons nous glisser dans les chaînes d'abattage en compagnie d'Amandine Gauthier, chercheuse au laboratoire Triangle intégrée au CNRS et à l'ENS de Lyon et auteure d'une thèse de sciences politiques sur la santé au travail des agents de l'État en abattoir de boucherie. En compagnie également d'Anne Deloisy, journaliste d'investigation et auteure de Bon appétit quand l'industrie de la viande nous mène en barquette, publiée aux presses de la Cité. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
Lorsque nous dînions à table, l'idée ne me quittait pas que là, à 300 mètres dans mon dos, se tenaient des bêtes encagées, embourbées dans les immondices, enfiévrées de terreur et rendues folles d'inaction. J'ai perdu l'appétit. Mes complices, mes congénères. Le samedi, j'allais au moule et je les observais jeter nonchalamment la viande sous plastique dans les caddies. Le plastique protège la conscience. S'ils avaient su, c'eût été notre faillite. L'édifice ne repose pas sur le mensonge, mais sur l'ignorance. J'ai réussi un exploit. En 40 ans, ne jamais regarder un porc dans les yeux. J'aurais risqué de croiser un regard. Ne jamais laisser s'immiscer dans l'esprit l'idée que chacune de ces bêtes est un individu. Ne raisonner qu'en masse. Ne penser qu'à la filière.
Amandine Gauthier et Anne Deloisy, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ce sont les mots d'un éleveur du Dorset en Angleterre que l'on vient d'entendre. Un extrait d'une nouvelle de Sylvain Tesson intitulée « Les porcs ». Ce refus de penser au lien entre l'animal vivant et la viande, vous l'avez constaté également auprès des professionnels de l'abattage que vous avez rencontrés lors de votre enquête, Anne Deloisy.
Alors en fait, ce qui est intéressant dans les abattoirs, c'est que comme les cadences sont extrêmement importantes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un abattoir industriel, c'est 500 vaches à l'heure, c'est 400 moutons à l'heure, et ça peut aller même beaucoup plus. Et pour les porcs, on peut arriver à 2000, 3000 moutons à l'heure. Donc en fait, ils n'ont pas le temps concrètement de s'attarder sur ces animaux, et ça devient des numéros.
On va reparler de cette cadence, mais d'abord, Amandine Gauthier, vous écrivez, quant à vous, que la mort des bêtes constitue toujours un tabou avec lequel les agents de l'État venus inspecter les abattoirs doivent s'arranger.
Bien sûr, c'est un tabou. Pour comprendre cela, je pense qu'il faut d'abord revenir sur le système socio-technique de l'abattoir, et en particulier la division du travail, notamment sur le lieu de la tuerie, d'ailleurs qu'on... On parlait auparavant d'égorgerie, maintenant on parle d'abattoir, d'abattage. C'est intéressant de noter au passage l'euphémisation du vocabulaire et la végétalisation qui a déjà été notée par différents chercheurs. Mais en tout cas, une division du travail qui permet effectivement aux tueurs, aux seigneurs, on les appelle ainsi dans l'abattoir, d'effectivement ne pas croiser le regard du cochon, puisque plusieurs personnes sont mobilisées entre l'immobilisation. Enfin, on va sans doute revenir sur l'ensemble des étapes.
Bien sûr.
Et donc, à la fin, personne ne tue directement, ne tue vraiment et ne porte cette responsabilité.
Alors avant d'y venir, d'abord il faut peut-être préciser qu'on compte environ 263 abattoirs de boucherie et 700 abattoirs de volailles en France. Et au cours des 30 dernières années, alors qu'ils étaient exclusivement publics et aux mains des municipalités, les abattoirs se sont progressivement privatisés, Anne Deloisy.
Absolument, l'État a considéré à un moment donné, d'ailleurs c'était sous Napoléon, que... Les abattoirs tels qu'ils existaient à l'époque, c'est-à-dire dans les arrière-cours des boucheries ou à côté des marchés publics, posaient un souci sanitaire, notamment en termes de traitement des déchets, et posaient aussi un souci philosophique. philosophique, puisque assister à l'égorgement d'un animal, les penseurs, les philosophes commençaient à dire que ça pouvait avoir un impact sur la société, notamment sur les jeunes enfants. Donc à ce moment-là, l'État a réglementé la situation en imposant la création d'abattoirs à l'extérieur des villes. D'abord, justement, il fallait les sortir de ces villes pour éviter les contaminations. Et puis, petit à petit, en fait, les abattoirs, on a monté des murs, on les a enfermés, et puis les gens ne se sont plus rendus compte de ce que c'était que l'étape d'abattre un animal en réalité.
Aujourd'hui, les abattoirs publics ne traitent plus que 8% de la production à peu près, alors qu'ils constituent encore un tiers du total des abattoirs. Et l'abattage privé est pour une petite moitié de la production aux mains du groupe Bigard, pour bien comprendre un petit peu l'état des lieux, Amandine Gauthier.
C'est effectivement intéressant de mettre en lien d'un côté l'emprise croissante de l'État, et de toute façon l'État qui est évidemment totalement déterminant dans la mise en place des abattoirs, donc ils sont à ce titre une véritable institution. Leur naissance est liée à la nécessité de maîtriser les risques sanitaires, en particulier à mettre en lien évidemment comme il a été dit, avec l'histoire des sensibilités, l'évolution des sensibilités aussi. Et l'évolution du nombre des abattoirs, puisque si c'est donc l'État qui a regroupé ces différentes tueries particulières dans un lieu unique qu'on a appelé l'abattoir, la multiplication donc des outils d'abattage donc sont nés finalement de cet impératif des règles sanitaires, mais c'est aussi cette règle sanitaire qui a finalement ensuite défavorisé les abattoirs publics qui sont de moins en moins importants au profit des abattoirs privés.
Donc c'est pour une question de règles sanitaires et pas pour des questions de productivité qu'on observe ce phénomène.
C'est impossible de dissocier les deux.
Oui, alors parce qu'il y a effectivement, on observe ce phénomène de concentration des abattages dans des grandes infrastructures. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faut distinguer les petits abattoirs, qui sont donc en général des abattoirs publics à disposition des éleveurs locaux, et les grands abattoirs industriels, Anne Deloisy.
Oui, c'est vrai. Les grands abattoirs aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est des vraies villes. On arrive à avoir des abattoirs dans lesquels il y a 5000 salariés, et vous avez des coiffeurs, vous avez des pharmacies au milieu des abattoirs. Enfin, je veux dire, c'est des énormes structures. On n'est plus du tout dans un petit abattoir de proximité, etc. Ça a effectivement changé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine d'abattoirs qui produisent quasiment 70% qui abattent 70% des bêtes en France. Donc, c'est pas beaucoup sur les 263.
Des grandes disparités entre les abattoirs qui peuvent produire entre 10 000 tonnes et jusqu'à 200 000 tonnes de viande, Amandine Gauthier.
Mais la France correspond à un modèle mixte. Il faut quand même le redire, que ce soit au niveau mondial, bien sûr. On n'a rien à voir avec les outils industriels des États-Unis, du Brésil, et la concentration aussi au niveau économique, même si on tend vers une situation oligopolistique, voire quasi monopolistique, on n'est quand même pas à ce stade en France, et y compris au niveau européen. On est aussi dans un modèle intermédiaire où on a encore des unités qui sont assez faibles, avec des faibles tonnages, des cadences assez faibles. Donc plutôt le modèle italien, disons, en Europe, et puis des abattoirs de type industriel avec des cadences fortes, un peu plus mécanisées, même s'il faut aussi nuancer tout ça, plutôt comme au Danemark, par exemple, en Europe. Donc on correspond quand même vraiment à un modèle intermédiaire, il ne faut pas exagérer.
C'est important de le dire, en effet. Anne Deloisy, est-ce que vous pouvez retracer pour nous les différentes étapes de l'abattage en quelques mots? Tout commence avec le déchargement des animaux.
Oui, alors absolument, tout commence avec le déchargement des animaux. Ce qu'on peut peut-être utiliser, c'est les bovins, pourquoi pas. Donc les bovins vont descendre des camions. Là encore, l'accueil est extrêmement important, parce qu'il faut savoir comment ils sont pris en charge. Parce que on se rend compte que les abattoirs français nécessitent de vrais investissements qui n'ont pas été faits depuis très longtemps, et du coup rien que le déchargement, c'est compliqué. C'est-à-dire que les barrières sur les côtés ne sont pas assez hautes, et du coup les vaches sont distraites parce qu'elles voient à droite et à gauche et ralentissent. Comme elles ralentissent, les bouviers, donc les personnes qui sont chargées de les faire avancer, leur donnent des petits coups d'aiguillon électrique, c'est donc des petites décharges électriques pour les faire avancer.
Qui doivent être utilisées de façon exceptionnelle.
Qui devraient être utilisées de façon exceptionnelle, mais en fait, du coup, ça devient compliqué pour les bêtes, compliqué pour les hommes qui travaillent avec les bêtes. Bon, ça, c'est la première étape. Quand c'est bien géré, les bords sur les côtés sont assez hauts, la musique et les bruits sont atténués, les pentes sont douces. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, c'est qu'une vache, elle a une vision binoculaire de face et monoculaire à 340 degrés. C'est-à-dire qu'elle voit sur les côtés. Et donc, tout mouvement ou tout signe va la perturber, l'empêchera d'avancer. Bon, une fois qu'elle est rentrée, elle va arriver ensuite dans le piège. Enfin, elle va suivre un couloir d'amener qui est assez long, suivant les abattoirs. Elle va arriver dans le piège et là, normalement, si elle est abattue de façon traditionnelle, elle doit recevoir un coup de matador. C'est une sorte de pistolet qui va envoyer une petite tige électrique dans le crâne, une petite tige métallique dans le crâne, qui va l'assommer. Et une fois qu'elle sera assommée, elle va tomber. Et à ce moment-là, une fois qu'elle est tombée...
Ce qu'on appelle la phalage.
La phalage, absolument. Une fois qu'elle est tombée sur le sol, là, un autre ouvrier va être chargé de l'accrocher par la patte et de la hisser, parce qu'une vache, c'est quand même très lourd, ça peut peser 900 kilos facilement, de la hisser sur le sol. Et ensuite, va commencer l'opération de découpage. On commence par les pieds, ensuite...
Et le cuir sera ensuite séparé de la carcasse, on retire les têtes et à la fin les carcasses sont fendues en deux pour des contraintes commerciales. Amandine Gauthier, vous vous êtes intéressée dans le cadre de votre thèse aux agents de l'État qui réalisent les inspections ante-mortem et post-mortem, donc avant et après la mise à mort donc. En quoi consiste leur travail et alors à quelles difficultés est-ce qu'ils sont confrontés ?
Il s'agit d'une population qui est assez méconnue par le grand public, je dirais, et qui pourtant réalise une mission régalienne de l'État et qui est chargée de la sécurité sanitaire des viandes, la santé publique, donc. Et cela depuis l'installation des abattoirs. Je disais tout à l'heure, les abattoirs eux-mêmes sont indissociables en fait de l'action poursuivie par l'État et en particulier par le groupe des vétérinaires qui a fortement œuvré en faveur de la surveillance des viandes en abattoir.
Et donc, c'est environ 2155.
Donc, ils sont entre 1500 et 2000. Bon, c'est variable. Et puis, surtout, ça dépend si on parle en ETP ou en effectif. Enfin, bon. Leur nombre est proportionnel au tonnage de l'abattoir. Donc, dans un tout petit abattoir, on peut avoir un seul agent chargé de l'inspection des viandes. Dans un abattoir de type industriel, donc qui va fonctionner par exemple à 65-70 bovins à l'heure ou à 800-900 porcs à l'heure, comme il a été dit tout à l'heure pour le secteur porcin, on peut avoir des équipes d'une trentaine d'agents. Les agents donc qui relèvent des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui ont intégré en partie les ex-directions des services vétérinaires et donc qui relèvent directement du ministère de l'Agriculture, sont donc chargés de la salubrité des viandes en abattoir. Ils interviennent à différents niveaux. Ils se chargent de contrôler d'une part les mesures mises en œuvre par l'établissement d'abattage qui en premier lieu doit se charger bien sûr de la salubrité des viandes aujourd'hui. Ils interviennent dans le secteur vif, hein, donc c'est-à-dire avant la saignée. Donc il s'agit de l'inspection ante-mortem et donc là ils sont chargés de vérifier non seulement la documentation, la traçabilité, etc., mais aussi la bonne marche l'introducteur des bouviers, etc., donc de l'état des animaux avant d'être abattus. Et puis, ce qui occupe donc la plus grande partie de leur travail, donc là, on parle bien des techniciens des préposés sanitaires, donc qui travaillent sous la responsabilité des vétérinaires et qui, eux, ne se chargent pas directement de l'inspection dont je vais parler tout de suite, qui est l'inspection post-mortem. Donc, c'est-à-dire que pour plus de 80% de leur temps, ces inspecteurs, ces agents de l'État, sont donc sur la chaîne d'abattage, donc plutôt à la fin, hein, dans le hall d'abattage, là, qui a été décrit rapidement, et donc procèdent à des incisions répétées sur l'ensemble des abats rouges en particulier, donc la tête, le foie, la langue, le cœur, et donc vérifient l'état des carcasses. Ils incisent, ils palpent les abats pour ressentir et donc identifier les différents signes inflammatoires et détecter éventuellement des maladies, notamment des maladies transmissibles.
Et voir aussi éventuellement si l'animal a vécu une situation de stress. On va en reparler un peu plus tard quand on parlera de souffrance animale. Mais ce qui est intéressant quand on vous lit, Amandine Gauthier, c'est que vous expliquez que les inspecteurs sont finalement les seuls membres de l'abattoir à circuler entre les deux espaces, c'est-à-dire celui où les animaux sont d'un côté vivants et de l'autre morts.
Tout à fait. C'est assez intéressant, et Séverin Muller l'avait déjà noté, bien sûr, dans son ouvrage intitulé « À l'abattoir » tiré de sa thèse, qu'en fait, on est dans l'abattoir, on est dans un espace qui fonctionne, bien que les différents acteurs qui y travaillent ne circulent pas du tout entre les différents espaces, que ce soit le hall d'abattage ou les ateliers de découpe, et aussi entre ce qui relève donc du secteur vif et ensuite du post-mortem, puisqu'on suit le principe de la marche en avant dans l'abattoir.
Alors on parle souvent de la souffrance animale, mais on parle moins de celle des travailleurs qui sont chargés de la mise à mort. Les conditions de travail dans les abattoirs sont pourtant particulièrement éprouvantes, comme on peut l'entendre dans ce témoignage.
Vous êtes posté sur un poste de 2 mètres carrés, vous avez les jambes qui s'engourdissent parce que vous ne bougez pas. Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas un métier simple. Hein. pour un métier facile. Je joue beaucoup avec la rotation de mon poignet. Donc c'est pas dur, mais c'est toujours les mêmes gestes. Quoi. Donc voilà, c'est pas grand-chose. Mais la rotation du poignet en permanence qui fait comme ça et comme ça, eh ben, ça joue énormément au niveau des canals carpiens. Après, au niveau des articulations des coudes, bah, tu vois, regarde, mine de rien, je force quand même. Quoi. Et là, rien que là, bah, tu vois, ça me tire sur les tendons. Et il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 3 ans, j'ai été arrêté d'une épicondylite au coude. J'ai été arrêté 9 mois. Et là, bah, je travaille avec des séquelles au coude. Et à peu près tous les soirs, je rentre chez moi, bah, je me masse avec du flector tous les soirs. Il y a pas un soir où je ne masse pas.
Un extrait du documentaire de Raphaël Girardeau et Vincent Gaulier, Les Seigneurs, sorti en 2016. Le corps des ouvriers est éreinté par ce travail à la chaîne. Anne Deloisy, c'est ce que vous avez constaté?
Effectivement, le secteur de l'abattage est un des secteurs qui, dans lequel les personnes qui travaillent ont le plus d'accidents du travail par rapport à tous les autres métiers qu'on peut retrouver en France. Beaucoup d'accidents parce que il y a du sang, parce qu'il y a des morceaux de gras par terre, parce que ça glisse, parce qu'on utilise des couteaux tranchants, des scies, des espèce de tronçonneuse, enfin des machines dangereuses, parce que malgré le fait qu'ils soient protégés avec des côtes de maille, c'est jamais suffisant et un coup de couteau n'est pas loin. Beaucoup de blessures, beaucoup de maladies, troubles musculo-squelettiques, puisque les gens passent leur temps à lever leurs bras et à couper, et du coup on a des gens qui ont 26, 27 ans qui peuvent même plus lever les bras. Sont dans des conditions absolument abominables.
Accidents du travail et maladies professionnelles.
Souvent pas reconnues, hein, parce que ça c'est encore un éternel débat.
Selon les chiffres du Monde de 2017, il y en a 25 fois plus en moyenne dans les abattoirs que dans les autres métiers, chez les autres salariés, tous métiers confondus.
Absolument. Et il y a des abattoirs dans lesquels les taux arrivent. Il y avait un abattoir sur lequel j'avais regardé, un abattoir doux à l'époque, il y avait 97% de taux d'accidents du travail. Alors quand vous voyez ce chiffre, vous dites pas possible, c'est impossible. Et en fait, si c'était un abattoir qui était dans des conditions d'organisation extrêmement moyenâgeuse, et en fait les gens se blessaient énormément.
Et il y a bien sûr la cadence dont on a commencé à parler, qui est souvent imposée aux ouvriers, et l'impact psychologique du bruit qui est particulièrement important dans les usines, Amandine Gauthier.
Tout à fait, et le bruit présente la particularité d'avoir des effets très différés sur la santé, contrairement à un accident du travail, bien sûr, on voit tout de suite quand on se coupe ou autres musculo-squelettiques, donc qui sont des affections périarticulaires et qui sont développées dans le cadre du travail répétitif.
Sans compter la précarité des contrats, qui est la règle dans les abattoirs. Ça, c'est aussi un
précarité
aspect
des
important.
Contrats, horaires décalés, ils commencent souvent à 3-4 heures du matin, il fait froid dans un abattoir, très chaud en été, très froid en hiver, c'est extrêmement bruyant, et juste pour qu'on se donne une idée, ça fait à peu près 110 décibels un abattoir, et pour avoir une idée, un bus qui passe à un feu rouge, c'est 90, donc 110, c'est énorme en fait, c'est des tronçonneuses toute la journée autour de la tête, avec des bruits de meuglement et tout ça.
Et alors qu'est-ce que la technologie, la robotisation, notamment, ont changé au quotidien des ouvriers?
C'est ça, c'est ce qu'il faut, je pense, commencer aussi par rappeler, c'est-à-dire que l'industrie de l'abattage, enfin l'activité de l'abattage reste une activité qui est largement manufacturière. Et donc même quand on est dans des abattoirs, donc on dit ici industriels, qui sont industriels, on a toujours des trous, si on veut, concernant l'automatisation sur la chaîne. Donc on a la persistance d'un corps à corps sur l'ensemble de la chaîne. On parle bien du hall d'abattage, mais c'est aussi le cas dans les ateliers de découpe, donc entre les hommes qui y travaillent, puisqu'on est quand même sur un secteur qui est largement masculin, et les carcasses.
Et ce qui explique aussi parfois la récurrence des mauvais traitements sur les animaux, pour certains, c'est l'absence de formation suffisante des ouvriers des abattoirs. C'est l'un des rares endroits où on peut aller travailler sans le moindre diplôme, Anne Deloisy.
Absolument. Il n'y a aucune formation n'est nécessaire pour être un simple ouvrier. Aujourd'hui, il y a quand même une formation nécessaire pour être un sacrificateur ou un tueur. Maintenant, il faut relativiser, parce que cette formation, c'est une formation qui se passe en salle pendant 2 jours et qui se solde par un QCM, en gros, à peu près tout le monde là, et c'est pas suffisant. La formation des sacrificateurs, d'ailleurs, est quasiment la même que celle des responsables de protection animale. Toutes les associations, toutes les instances vous disent c'est un pas en avant, mais c'est pas suffisant.
Sur cet aspect de la formation, Amandine Gauthier, vous avez le sentiment que ça évolue?
Eh ben, je voudrais dire quand même que donc les agents de l'État dont on parlait, dont on commençait à parler tout à l'heure, sont donc chargés de surveiller aussi le donc la tuerie, l'endroit où précisément les animaux sont abattus. Malheureusement, comme je disais, ces agents de l'État passent plus de 80% de leur temps, puisque chaque carcasse et chaque abat de chaque carcasse doit faire l'objet d'une inspection, et qu'elle fait l'objet d'une inspection par l'État, le manque de personnel et de moyens mis à disposition...
Ils n'ont pas le temps d'aller vérifier le moment précis de la tuerie.
C'est de plus en plus fait, en particulier suite au scandale dont on va parler tout à l'heure.
Mais vous dites 214. Un manque d'effectifs pour le moment. Mais
un manque d'effectifs, c'est certain. Il y a toujours eu un décalage, de toute façon, et ça, c'est propre à la politique publique de sécurité sanitaire des viandes en France en particulier. Il y a toujours eu un décalage entre l'ambition de l'État pour cette politique publique et les moyens effectivement mis en œuvre dans les abattoirs.
On va reparler des contrôles, mais d'abord, l'association 269 Life Libération Animale avait comparé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les personnes travaillant dans les abattoirs à des terroristes. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec cela, c'est-à-dire le fait que ce soit les ouvriers des abattoirs qui soient pointés du doigt, alors qu'en réalité, ils font un travail que personne ne veut voir, Anne Deloisy?
Alors, les ouvriers sont pointés du doigt, ça c'est une chose, mais c'est un problème plus global, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens qui consomment ne savent pas comment est fabriquée la plupart des choses qui se retrouvent dans leur assiette. Donc, quand vous consommez un morceau de viande, effectivement, au départ, ce morceau de viande, ça a été un animal qu'il a fallu nourrir, élever, transporter, abattre, découper, mettre sous vide, faire du marketing, etc. Laisser au fond de son frigo, et parfois le laisser pourrir au fond du frigo. C'est vrai qu'il faudrait que les gens reprennent conscience de ce lien entre ce qu'ils mangent et l'origine de ce qu'ils mangent, en fait. Et on jetterait peut-être moins de vieilles tranches de jambon au fond du frigo et on tuerait moins d'animaux pour rien. Donc effectivement, oui, les ouvriers sont pointés du doigt aujourd'hui, mais parce que il y a eu tout ce... On a caché pendant trop longtemps la façon dont l'alimentation était produite.
Est-ce que cela n'ajoute pas encore un argument supplémentaire à la pénibilité du travail, le fait d'être régulièrement pointé du doigt ou d'être stigmatisé comme cela, Amandine Gauthier?
Bah si, bien sûr, c'est un véritable... C'est la difficulté du travail. Je me souviens pour essayer d'incarner un petit peu tout ça d'une journée à la fin d'une journée, donc qui peut être assez longue, hein, parce que la longueur de la journée de travail, la plasticité du temps de travail en abattoir est une des caractéristiques de l'industrie. Et donc à la sortie de l'abattoir, regagnant la voiture comme plusieurs salariés, on constate alors des autocollants sur les pare-brises, collés sur les pare-brises des voitures, et donc il était écrit tueur justement. Et donc c'est vrai que c'est compliqué, puisqu'il faut rappeler que la justification qui permet aussi de tenir au travail de la part de l'ensemble des personnels travaillant dans les abattoirs, c'est de fournir une viande produite qui soit saine, qui soit... Et donc cette justification, elle est en tous les cas au moins bousculée quand ces salariés font face à ces critiques.
Ce sont souvent des gens qui sont dans des conditions économiques et sociales compliquées, qui choisissent ce métier. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de double peine dans le fait de stigmatiser ou de les désigner comme coupables ?
Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnels qui choisissent d'exercer leur métier, ce métier. En tout cas, ils sont amenés à exercer ce métier pour tout un tas de raisons.
Dans la fumée des faubourgs populaires, où que ça sent fort la sueur et la misère, les ouvriers répondent à l'appel des mille sirènes qui sifflent dans le ciel. Mais la plus belle de toutes ces sirènes, c'est une brave fille à la mine sereine. Et chaque soir, elle le réconfort de ses bouchers, des chétifs comme des phares. Le regard pur et le front innocent, elle a les mains toutes couvertes de sang. C'est la brave fille des abattoirs, à la Villette il faut la voir, assister au dernier supplice des pauvres taureaux, des pauvres génisses, au porc qui souffre avant de s'aloir, elle apporte un suprême espoir. Viande à saucisse, pour que les riches y se remplissent. Manger de la viande, c'est bon pour la santé. Oui, mais voilà, il ne faut pas abuser. Car on s'habitue vite à la grande vie, l'alcool, le tabac et tout ce qui s'ensuit. Ce fut le cas de cette brave fillette. Puis elle connut Mimile de la Villette, qui très brutal comme le sont ses bouchers, vite lui montra sa façon de l'aimer. Tout de suite après, comme dans un grand frisson, certes un peu tard, elle répondit non. C'est la brave fille des abattoirs, à la Villette il faut la voir, assister au dernier supplice des pauvres taureaux, des pauvres génisses, au porc qui souffre avant sa loi, elle apporte un suprême espoir. Viande à saucisse, pour que les riches y s'emplissent. Mais un jour à la porte de la Villette, elle voit Mimile avec une autre brunette. Alors dans l'ombre se faufilant sans bruit, elle lui donna un grand coup de fusil. Elle prend sa revanche et Mimile sa fesse, et la brave fille s'écrie vengeresse. Tu m'as déchiré mon cœur de 20 ans, je vais t'arracher le tien maintenant. Alors roulant par-dessus les fortifs, le cœur de Mimile gémissait plaintif. C'est la brave fille des abattoirs, dans un rictus il faut la voir, ricaner de ce cœur meurtri par un simple coup de fusil. Alors voyez, monsieur et dame, toute la tristesse de ce drame. Faut que ça finisse. Plus d'alcool, plus de vice.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était La brave fille des abattoirs, interprétée par Bourvil. Nous sommes toujours avec Amandine Gauthier et Anne de Loisy et nous continuons à cheminer dans les abattoirs. Je vous propose maintenant d'aborder la question de la souffrance animale et d'abord d'écouter cet archive de 1961. L'acteur Michel Simon raconte son année passée à travailler dans un abattoir.
Mes parents tenaient une charcuterie, ma mère avait beaucoup insisté, j'adorais ma mère, je voulais pas lui faire de peine pour que je reprenne le commerce. Et pour lui faire plaisir, j'ai assassiné des bêtes pendant un an. Et un jour, je n'en pouvant plus, je me suis enfui à Paris. J'ai fait tous les métiers, plutôt que de continuer le métier de tueur. C'était l'enfer. Mais exactement, je n'imagine pas l'enfer autrement. Un abattoir où on doit tuer des cochons qui s'agenouillent, qui nous demandent pardon, qui veulent vivre. Je rends les gorges. On marche dans le sang, dans les tripes. Et les tueurs rigolent, ils se portent bien. Ils s'envoient des bons coups de rouge après ça.
La question de la souffrance animale qui est revenue au cœur du débat public à la faveur des vidéos de l'association L214. On le disait en début de cette émission, des images choquantes qui obligent donc à repenser les conditions d'abattage des animaux. D'abord, quels sont les différents types d'étourdissements qui visent à éviter la souffrance de l'animal? On commençait à l'aborder à l'instant. Et quels sont ceux peut-être qui sont le plus contestés, Anne de Loisy?
Alors, il y a plusieurs techniques d'abattage. Effectivement, aujourd'hui, depuis 1974, la loi en France et depuis 70 en Europe impose que toutes les bêtes soient étourdies avant abattage. Alors, étourdissement, pour un bovin, il s'agit d'un matador, c'est-à-dire un pistolet qui lance une petite tige métallique et qui va percuter le crâne de la bête. Si la bête n'est pas égorgée dans les 15 minutes, elle mourra suite à ça. Si elle est égorgée, par contre, elle mourra assommée, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus consciente et qu'elle ne souffrira pas. Donc ça, c'est la première étape. Pour les cochons, c'est souvent soit du gaz, soit des pinces à électronarco, c'est-à-dire que c'est des pinces à 2 ou 3 points qui vont aller des deux côtés de la tempe de l'animal et éventuellement sur le crâne, et qui vont leur permettre, pareil, d'être inconscient au moment où ils vont être égorgés.
Et pour la volaille, c'est le bandeau électrifié.
C'est un bandeau électrifié, voilà.
Et alors, quelles sont celles qui ont le plus les faveurs des associations animalistes, qui estiment peut-être qu'elles sont le moins douloureuse, le moins éprouvante pour
les animaux? En fait, on se rend compte que le problème, c'est que les outils soient bien réglés et que le personnel soit bien formé. C'est vraiment le problème majeur. Parce qu'après, il y a des grandes discussions sur les différences de gaz utilisées pour endormir les bêtes, sur les pinces. Mais en fait, il y a des abattoirs dans lesquels je suis allée où effectivement, ça se passait extrêmement bien. Il n'y avait pas de raté. Et il y a des abattoirs où c'est une catastrophe parce que les pinces sont toutes rouillées, elles ne sont pas nettoyées, elles ne sont pas rénovées, elles ne sont pas entretenues. Et du coup, les ouvriers n'ont pas d'outils. Et après, on arrive à des extrémités comme ce qu'on voit dans les vidéos de l'L214 où ils vont prendre une clé à molette pour assommer la bête. C'est pas une méthode adaptée.
Donc ça dépend en grande partie des outils, nous dites-vous. La mise à mort doit être faite rapidement après l'étourdissement pour éviter que l'animal reprenne conscience. Et c'est souvent là que le bât blesse, c'est-à-dire des animaux qui sont mal étourdis et qui se réveillent, Amandine Gauthier.
Alors là, ce serait plutôt un vétérinaire qu'il faudrait. Alors, ce que j'ai pu constater là-dessus, en tout cas, c'est que, y compris concernant les signes de... Enfin, c'est-à-dire que la réception, si on parle des vidéos d'L214, d'ailleurs, c'est un peu compliqué de parler de protection animale, finalement, en abattoir. Et on voit bien que la rhétorique de l'association s'appuie aussi là-dessus. C'est-à-dire que là, on parle du bien tué. Or, l'objectif poursuivi est plutôt de supprimer et de libérer l'animal à terme. Hein.
Donc, pour L214, abattage est mauvais en soi.
On n'est pas dans une approche welfariste de bien-être animal. On est dans une approche plutôt abolitionniste, même si c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, pour simplifier. Ce que j'ai pu constater, c'est que la réception de ces différentes vidéos, diffusées par L214, suscite des réactions fort différentes, et notamment entre la population et, je dirais, un professionnel de vétérinaire que je connais assez bien, et donc il semble qu'il y ait des difficultés d'interprétation également de ces images, et qu'il y ait éventuellement des questions à discuter, y compris au sein des abattoirs, entre les services vétérinaires et les abattoirs, sur les signes de conscience, qu'est-ce que ces signes recouvrent pas.
Que vous disent par exemple les vétérinaires que vous avez
interprétation des vidéos. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ça posera la question, j'imagine qu'elle sera posée de la vidéosurveillance après, c'est-à-dire comment, sans anticiper la question, de comment on interprète finalement ces signes avec des grilles d'analyse professionnelle éventuellement.
On se rend compte qu'il y a vraiment un problème de formation, je veux dire, aussi bien des vétérinaires que des agents vétérinaires. Alors, les vétérinaires, c'est 7 ans de formation. Aujourd'hui, un agent vétérinaire, autrefois, c'était 1 an. Maintenant, c'est 5 semaines. On leur demande de faire le même travail avec beaucoup moins de clés en main. Donc ça, c'est compliqué. Effectivement, ça mérite à la fois un consensus, qu'il y a des vraies discussions, ce que disait Amandine, mais il y a des vraies discussions sur qu'est-ce qui est inconscient. Mais il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a notamment l'INRA. Je cite Claudia Terlot et une autre éthologue, Cécile Bourguet, qui travaille là-dessus et qui travaille de plus en plus avec les abattoirs, notamment les abattoirs qui ont été condamnés suite aux dénonciations des vidéos de L214, pour former le personnel, pour remettre à niveau un peu tout le monde, les vétérinaires, le directeur d'abattoir, les responsables de protection animale, et pour faire en sorte qu'on aille de l'avant. On peut arriver aujourd'hui à abattre les animaux dans le moins de souffrance possible, c'est possible. Maintenant, ça demande de s'y employer, de s'y employer quotidiennement.
Mais c'est une préoccupation très ancienne, puisque dès l'installation des vétérinaires, dès le tout début des abattoirs, les vétérinaires avaient l'ambition de faire des tueurs de bons euthanasistes. Je cite notamment Catherine Rémy qui reprend ces discussions.
Et alors, pour savoir si l'animal a connu une situation de stress, les inspecteurs inspectent les abats et ils voient s'il y a des taches sur les poumons, ce qu'on appelle le tiquetage. Et alors, ils sont également attentifs au bruit. Ce que vous dites, Amandine Gauthier, c'est que finalement, la protection animale, elle fournit aux inspecteurs peut-être un nouveau motif de sens.
Alors c'est vrai, le travail en abattoir, il est typique du travail en miettes du XXe siècle, qui a été largement décrit. Donc un travail parcellisé et éventuellement avec une perte de sens associée au travail qui va avec. Les inspecteurs, l'étant en abattoir, n'ont pas échappé à ce mouvement, puisque donc ils sont eux-mêmes dans le hall d'abattage, sur la chaîne d'abattage, et donc du fait de cette division du travail extrêmement poussée et de l'industrialisation des outils d'abattage, effectivement, les inspecteurs regrettent de ne plus voir de A à Z l'animal, puisque l'idée, c'était justement de pouvoir asseoir un raisonnement scientifique à partir de l'animal sur pattes, et ensuite en examinant l'ensemble des abats de la carcasse. Et il se trouve qu'en effet, la protection animale permettrait, donc là ce sont des hypothèses hein, qui sont la conséquence des échanges assez longs avec les agents des services vétérinaires. Et donc cette protection animale permettrait de retrouver cette unité très très morcelée de l'animal et donc du travail aussi.
Et cela même si les contrôles suscitent évidemment des tensions entre les services de l'État et les établissements d'abattage. Anne Deloisy, vous vouliez réagir?
Oui, effectivement, le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de vétérinaires, on n'a pas assez d'agents vétérinaires, je crois que ça, il faut le rappeler. Il y a eu moins 20% de personnel en 10 ans. Aujourd'hui, les syndicats officiels considèrent qu'il faudrait 50% de personnes en plus pour pouvoir juste faire leur travail tel qu'il est demandé dans les textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les bêtes, normalement, quand elles rentrent dans l'abattoir, doivent avoir été vues par un vétérinaire. En pratique, c'est pas du tout le cas. Je cite Michel Coura, qui est inspecteur auprès de l'OABA, qui dit, dans les 12 derniers abattoirs que j'ai visités, il n'y en avait qu'un seul où tous les animaux avaient été vus. Un abattoir qui tuait 500 bêtes par jour, ils en avaient vu 2%, dans un autre 15%.
Donc on parle des animaux vivants.
Ça, c'est des animaux vivants, pour voir si l'animal est en bonne santé. Parce que normalement, on ne peut pas mettre sur la chaîne un animal qui est malade ou qui est blessé. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, l'étape indispensable aussi, c'est l'étape à la fin, post-mortem, c'est-à-dire qu'une fois que les carcasses sont pendues, il faut qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas de lésion. Sauf que, comme on vous disait tout à l'heure, on parlait de cadence. En fait, pour les bovins, c'est 50 vaches à l'heure, 50-60 vaches à l'heure, et pas 500 comme j'ai dit tout à l'heure, hein, 50-60 à l'heure. Mais 50 vaches à l'heure, vous imaginez la vitesse à laquelle vont les bovins, il n'a pas le temps de regarder. Si quand c'est 400 moutons à l'heure ou 500 porcs à l'heure, c'est pareil, il n'a pas le temps de voir les animaux et d'aller inciser les abcès, même si la loi le demanderait. En pratique, ils n'ont pas le temps de le faire. Et les bouchers derrière vous disent, moi je récupère les bêtes, elles ont plein d'abcès. Alors quand c'est un vrai boucher, les enlève. Quand ça part pour l'industriel, ça part dans le steak haché.
Alors il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec vous, qui est au cœur des débats sur la souffrance animale. C'est la question de l'abattage rituel. La loi française depuis 1964 prévoit que les animaux donc soient étourdis au moment de la saignée, on l'a dit. Mais des dérogations existent afin de permettre le libre exercice des cultes. Et cela concerne une part importante aujourd'hui des animaux abattus en France. Anne Deloisy.
Alors en fait, on s'est rendu compte depuis 2012 que ça considérait une part beaucoup plus importante que ne le nécessitait la consommation de viande abattue de façon rituelle. On s'est rendu compte que quasiment, alors les chiffres sont très variables, mais qu'entre 40 et 50% des bovins étaient abattus de façon rituelle. Et pour ce qui est, en ce qui concerne l'agneau, on arrivait presque à 80-90%. C'est énorme, sachant que ce ne sont pas les musulmans ou les juifs qui consomment 90% des agneaux abattus en France. C'est pas le cas. Alors il y en a qui partent à l'étranger, mais il y en a beaucoup qui partent sur le marché traditionnel.
Ce que vous nous dites, c'est que c'est une facilité des industries qui ainsi n'ont pas besoin d'étourdir les bêtes avant de les tuer.
Alors ils les étourdissent pas. Alors avant que justement ces lois sur la protection animale se mettent en place et que ça devienne un vrai objet de réflexion dans les abattoirs, effectivement, ça permettait aux abattoirs d'abattre plus vite, sans respecter la réglementation, et surtout de ne pas avoir nettoyé les chaînes entre abattage rituel et abattage non rituel.
C'est plus le cas aujourd'hui.
Aujourd'hui, ils sont en fait ralentis parce que la loi demande à ce qu'ils attendent suffisamment. C'est-à-dire qu'une bête abattue de façon rituelle, normalement, on peut en abattre 20 à l'heure, par exemple, pour les bovins, maximum. Alors qu'on pourrait en abattre 50 en traditionnel. Puisqu'on n'a pas le droit d'hisser une bête si elle n'est pas complètement morte. C'est-à-dire qu'elle ne bouge plus, qu'elle n'a plus de réflexe particulier. Aujourd'hui, si on fait en rituel, et ben à ce moment-là, ils les pendent, elles sont encore vivantes, elles s'agitent, elles sont découpées vivantes, enfin, ça va pas du tout. Donc du coup, ils sont condamnés, donc on ralentit les rythmes quand il y a un inspecteur. Mais comme je vous disais, il n'y a pas d'inspection parce qu'il n'y a pas assez de vétérinaires.
Mais ces dérives ont quand même largement disparu. Amandine Gauthier, on ne peut plus faire cela de la même façon aujourd'hui.
Donc l'abattage rituel, c'est bien une dérogation en fait à l'obligation d'assommage des animaux. Aujourd'hui, les entreprises sont supposées abattre ce qu'elles vont vendre en rituel. Sur l'abattage rituel, ce qui est intéressant, enfin à partir des observations en tout cas que j'ai pu mener, c'est que donc comme cela a été dit, cela ralentit beaucoup les cadences en fait. Et d'ailleurs, c'est la seule alarme que j'ai pu constater, le seul signal dans l'abattoir qui soit présent pour ralentir les activités, puisque justement on attend
qu'il y ait plus le réflexe. Il y a un bouton vert qui oblige à ralentir l'activité.
Tout à fait, qui oblige en tout cas la personne donc qui est supposée accrocher la patte juste après, donc dont on a parlé tout à l'heure, juste après la saignée, après que l'animal ait été égorgé, à attendre qu'il n'y ait plus le réflexe cornéen, etc. Et donc là, les vétérinaires sont plus présents sur ces abattages en particulier, en tendance, pour vérifier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les cadences sont largement ralenties à ce moment-là et qu'on constate que les personnels de l'abattoir, eh bien, à ce moment-là, s'impatiente un petit peu. Donc, on évidemment, et je suis la première à mettre en évidence que c'est l'importance des cadences, évidemment, et du rythme soutenu dans le hall d'abattage. Et en fait, le travail, c'est aussi des tours de main, un rythme particulier qui est pris. Et quand ça va un petit peu moins vite, eh bien, on sent une certaine impatience dans le hall d'abattage. Au moment de ces abattages rituels.
La question qui se pose, c'est est-ce que l'abattage rituel est plus douloureux pour l'animal que l'abattage avec étourdissement ? Alors le débat porte sur le temps qui sépare le coup de couteau de l'inconscience puis de la mort. Et alors les Pays-Bas ont trouvé une solution. Les abattoirs halal et kasher sont depuis janvier 2017 obligés d'étourdir l'animal si celui-ci n'a pas perdu connaissance dans les 40 secondes qui suivent l'égorgement. Mais là encore, se pose la question du contrôle, Anne Deloisy.
Alors, j'allais dire, ça se pratique aussi en France, parce que comme on a un souci, c'est qu'on a un problème de cadence, et que qui dit ralentissement des cadences dit perte d'argent pour un abattoir. Aujourd'hui, on donne régulièrement des coups de matador avant, ou alors après, alors un petit coup de couteau dans le cervelet après. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça se sache. En gros, le grand rabbinat français souhaite qu'il n'y ait absolument pas d'étourdissement avant, ni après. Malgré tout, ça se pratique dans les abattoirs. On ne peut pas vous donner le nom des abattoirs, sinon ils ne pourront plus le faire. Pour ce qui est du halal, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a trois grandes mosquées qui sont habilitées à donner des cartes de sacrificateurs aux personnes qui vont devoir égorger ces bêtes de façon rituelle. Il y a les recommandations sont différentes, sachant que ces trois mosquées, il y en a une qui est algérienne, d'origine algérienne, autre marocaine, tunisienne. Chacun se tire la bourre et personne ne veut dire « moi, j'autorise qu'on étourdisse ou pas ». En pratique, pour des raisons de commodité, on le fait.
Alors justement, l'abattage sans étourdissement est, par exemple, strictement interdit au Danemark depuis 2014, comme nous l'explique l'anthropologue Florence Bergeau-Blacker. Elle est au micro de Florian Delorme.
Le Danemark aurait, en supprimant l'abattage sans étourdissement, finalement légiféré contre l'abattage rituel. Alors, c'est un raccourci, en fait, puisque on voit bien que l'abattage avec étourdissement se pratique chez les musulmans. Cela permet, si vous voulez, de lire, d'interpréter la déclaration de Monsieur Jorgensen un peu différemment, puisque lui a rendu obligatoire l'étourdissement préalable des animaux de boucherie, ce qui, en fait, au Danemark, ne changeait rien, puisque l'abattage sans étourdissement ne se pratique plus depuis une dizaine d'années au Danemark. Il faut savoir que dans le monde, le nombre d'abattages avec étourdissement pour le halal est plus important que le nombre d'abattages sans étourdissement. Donc c'est un peu un raccourci de dire que interdire l'abattage sans étourdissement, c'est interdire l'abattage rituel.
C'est intéressant ce que nous dit ici Florence Bergeau-Blacler, car c'est une question évidemment qui est très sensible. Et ce qu'elle dit, c'est que non seulement l'abattage halal avec étourdissement existe, mais en plus, il est majoritaire dans le monde, Amandine Gauthier.
Oui, alors là, c'est pareil, je suis tentée de revenir un peu sur le travail, mais c'est vraiment la difficulté de travailler sur le travail en abattoir, c'est qu'il y a toujours un peu une tentation de détournement de l'objet sur la question animale, et ce qui est hyper importante, je ne dis pas le contraire, mais c'est le travail qui va quand même largement déterminer, et donc la formation, le sort de l'animal. Déjà, Upton Sinclair, au tout début du XXe siècle, disait, qui travaillait sur les ouvriers des abattoirs de Chicago, disait, visant, je crois, le cœur de mes lecteurs, je les ai atteints à l'estomac. Enfin, donc il y a une vraie difficulté quand on travaille sur l'abattoir de rester sur le travail. Ce que j'ai pu constater, moi, c'est que c'est assez difficile, en particulier, par exemple, dans un abattoir breton. Ce qu'il faut rappeler, donc, que les abattoirs sont quand même concentrés dans le Grand Ouest de la France, aménagement du territoire, Pisani, etc., en particulier en Bretagne, où se concentrent en particulier les abattoirs de type industriel. Et donc là, comme ailleurs, on peut répondre à cette demande donc de viande halal ou kasher. Et donc, je me souviens d'une personne en particulier qui travaillait dans le hall d'abattage, qui était au niveau de l'aspiration de la moelle, qui avait un BTS tourisme en poche, qui n'a pas trouvé d'emploi. Donc, c'est important d'avoir ce paysage-là en tête. Mmh. Et qui, donc, était, je crois, le seul musulman dans le hall d'abattage. Et donc, il a été missionné pour cette tâche donc d'abattre, je sais plus, c'était 40, une quarantaine de bœufs charolais, assez impressionnant à faire dans la journée, avec à peu près pas de formation, bien sûr en bénéficiant des conseils du sacrificateur, heureusement, avec un couteau qui était assez mal affûté, et donc les difficultés qui allaient avec. Mmh. Donc on est aussi dans le contexte de travail, d'un emploi précaire, il faut avoir
tous ces facteurs-là en effet. Et alors justement, quelles nouvelles mesures, alors si on parle du bien-être animal en l'occurrence, la loi agriculture et alimentation qui a été adoptée le mois dernier a-t-elle apporté, et est-ce que ces mesures vous paraissent suffisantes, Anne Deloisy?
Concrètement, je vois pas ce qui a été amené pour les abattoirs. On avait parlé de transparence, de vidéotransparence à un moment donné.
Alors, il y a quand même le délit de maltraitance en élevage qui est étendu aux activités de transport et d'abattage, et les peines en cas de manquement qui sont doublées, sans compter le fait que les associations de protection animale peuvent désormais se porter partie civile. Et enfin, le responsable de la protection animale qui doit être désigné dans chaque abattoir.
Oui, alors effectivement, de ce point de vue-là, ça a évolué, et effectivement, la chose qui... La situation qui évolue le plus, c'est effectivement en termes de justice. On a aujourd'hui eu deux procès assez retentissants sur les questions d'abattoir et de maltraitance. Et pour les premières fois, ces deux procès, les abattoirs ont été condamnés, des ouvriers ont été condamnés. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, on peut supposer qu'au fur et à mesure, les peines vont être de plus en plus importantes et que, enfin, la justice s'empare de cette situation. Parce que même pour les juges, c'était très compliqué. Et tant qu'il n'y avait pas eu ces vidéos de L214 et cette communication aussi importante dans la société, c'était difficile pour eux d'agir. Et pourquoi je dis ça? Parce que les inspections, les vétérinaires qui régulièrement faisaient état de situations alarmantes, faisaient des procès-verbaux, et les procès-verbaux n'étaient pas poursuivis. En fait, soit la préfecture bloquait, soit la justice ne poursuivait pas. Et donc, toutes leurs tentatives pour remettre les abattoirs dans les droits chemins n'étaient pas poursuivies des faits.
Donc ça, c'est un aspect important. Mais en effet, les associations de défense des animaux n'ont pas obtenu gain de cause sur l'obligation de la vidéo-surveillance dans les abattoirs, puisqu'elle ne sera expérimentée que dans les établissements volontaires. Alors, est-ce que, selon vous, la généralisation de la vidéosurveillance était une bonne idée? Et est-ce que, là encore, ça ne risque pas de faire peser la responsabilité sur les ouvriers des abattoirs?
Alors, mon avis, parce que là, c'est un avis un peu personnel sur la vidéosurveillance. Bon, premier point, c'est quand même assez compliqué. Enfin, disons que d'installer des vidéos sur un lieu de travail, quel qu'il soit, pose un certain nombre de questions. Donc
en termes de surveillance,
bien sûr, de liberté individuelle, etc. Donc ça, c'est le premier point. Mais plus sur la question là qui nous intéresse en particulier, qui est celle de l'abattoir et de la protection animale. Plusieurs choses. Alors, bien sûr, la caméra peut ajouter du stress. Donc stress, bon, chez les personnes. La caméra peut dissuader aussi, j'ai entendu quand même un certain nombre de, en particulier des bouviers d'ailleurs, puisque les seigneurs dire bon bah si ils nous mettent la caméra, moi là c'est fini, je pars. Donc c'est-à-dire que bon là, les conditions d'attractivité étant celles qu'on connaît du travail en abattoir, c'est sûr que c'est pas certain que ça améliore vraiment les choses. Et puis on n'a pas du tout réglé la question de qu'est-ce qu'on fait de ces images, qui les visionne. Alors si c'est l'inspection si ce sont les services vétérinaires qui les visionnent, alors effectivement, il faut beaucoup plus de monde. Je ne pense pas que la caméra puisse remplacer une quelconque surveillance en tous les cas. Et puis, la question que j'évoquais tout à l'heure de l'interprétation des images, qui me semble quand même hyper problématique. Comment on juge un peu à distance
si effectivement l'animal a été mal étourdi ou non, par exemple.
L'interprétation des images, à mon avis, pose problème. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait des images à qui elles sont destinées, pourquoi, bon.
Alors,
si c'est pour répondre à un enjeu de formation, par exemple, c'est encore différent. Mais je suis pas spécialiste.
Effectivement,
de la
je pense que pour la formation, les avis sont assez unanimes de ce point de vue-là. Ça permettrait d'aider les ouvriers à travailler dans de meilleures conditions. Mmh. Après, on parle beaucoup du respect du travailleur dans l'abattoir. Non, c'est très bien. Mais quand vous allez au supermarché, vous êtes filmé en permanence. Quand vous allez à la banque, vous êtes filmé en permanence. On ne demande pas votre avis. Oh, les images circulent pas partout. Donc, c'est tout à fait gérable. Aujourd'hui, on a dit, on va mettre la vidéosurveillance pour savoir ce qui se passe. Il y a des abattoirs qui pratiquent déjà cette vidéosurveillance et ça fonctionne très bien. Il y en a plein qui vont vous dire, la loi prévoit maintenant que ce soit avec l'accord des salariés et après publication du décret. En pratique, il y en a plein des abattoirs qui ont mis des caméras là où ça les intéresse. C'est-à-dire qu'ils se font voler des carcasses, ils mettent des caméras dans les halls de stockage de viande et ça ne pose de questions à personne puisque le directeur dit, moi je ne veux pas me faire de mes affaires.
Donc on revient sur la question du motif en fait. Et si le motif c'est celui de la protection animale, eh bien ce que je rapporte c'est simplement la parole des personnels en abattoir qui disent, si c'est la protection animale l'objectif, alors pourquoi on ne met pas des caméras dans les élevages, pourquoi on ne met pas des caméras sur les lieux de transport qui posent beaucoup beaucoup de problèmes en termes de protection animale.
Alors justement, vous parlez du transport, la question qui se pose c'est quel est peut-être le type d'abattoir idéal, est-ce que ça existe un abattoir idéal, on peut se poser la question, mais en tout cas les abattoirs mobiles sont souvent présentés comme une bonne solution, c'est en tout cas l'avis d'Émilie Janin, elle est éleveuse de charolaise en Côte d'Or à la ferme de Linière.
L'idée, c'est, après avoir visité un modèle qui existe en Suède et qui tourne depuis 2014, de faire en sorte de faire venir cet abattoir mobile suédois en France pour valoriser la viande que j'estime qu'on travaille très très bien, nous, au niveau des élevages, mais qui peut être saccagée par du transport long d'animaux vivants vers des abattoirs avec des mélanges d'animaux, du stress et compagnie. Alors, ce qui est prévu, c'est effectivement d'acheter les animaux vivants aux éleveurs, venir avec le camion abattoir mobile sur les fermes, abattre les animaux sur leurs fermes, et puis ensuite de les faire maturer, les découper, et de vendre la viande directement sous une marque qui s'appelle le bœuf éthique. Les éleveurs n'ont qu'à élever les animaux, nous proposer les animaux à la vente, et nous, on se chargera de vendre la viande. C'est clair que l'investissement du camion ne permet pas de déplacer pour tuer une vache dans chaque ferme. On va être obligé de se déplacer au départ pour 5 ou 6 animaux par jour, et ensuite on va tourner autour de 12 animaux par jour. Pour les éleveurs qui font de la vente directe, nous on en fait sur la ferme de Linière, ça veut dire que je tue tous les mois à peu près, et c'est moi qui emmène mes animaux assez loin. C'est clair que depuis 2 ans que je travaille sur cette histoire d'abattoir mobile, dès qu'il est en place, je m'arrange pour qu'il vienne faire une tuerie à Linière, mais ça va nécessiter une réorganisation, c'est-à-dire que le camion passera 4 fois par an à Linière, au lieu de, moi j'amenais mes animaux tous les mois à l'abattoir. Donc mes clients sont un peu prévenus que dès que le camion va être prêt, il va falloir qu'eux ils s'anticipent, parce qu'on aura de la viande à Linière que 4 fois dans l'année.
Voilà, les abattoirs mobiles qui permettraient d'éviter le stress et la souffrance du voyage, parce que je rappelle que certains bovins meurent avant d'atteindre les abattoirs ou atteignent leur destination avec des membres cassés. Mais tout cela exige une transformation du modèle industriel actuel. On l'entend, il faudrait un modèle qui s'appuie davantage sur du local, Anne Deloisy.
Alors absolument, aujourd'hui les constats est de dire qu'il faut rapprocher les abattoirs des élevages, parce qu'en fait à force de les concentrer, du coup c'est beaucoup plus de transport pour les animaux, beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de stress et une viande de moins bonne qualité. Mais on a effectivement la solution des abattoirs à la ferme, qui est une très bonne idée, mais qui est une solution alternative qui peut convenir qu'à certains. Et puis après, je crois qu'il y a des abattoirs de proximité, en tout cas moi j'en ai vu, qui travaillent très très bien. On parlait d'ouvriers qui n'ont pas envie d'aller travailler. Je pense à l'abattoir du Brioude, qui a un directeur qui s'appelle Monsieur René Riol, qui est un homme formidable, qui a réussi à embaucher une équipe de jeunes abatteurs qui ont tous moins de 30 ans, qui sont motivés, qui sont très branchés protection animale. Ils arrivent à faire un très beau travail et du coup, les bêtes sont bien traitées et les viandes sont de bonne qualité. C'est possible.
Les abattoirs de proximité pourraient constituer une bonne solution, même si ça ne remplacera pas le modèle global que nous connaissons actuellement.
Sûrement pas. Mais je pense que dans tous les cas, l'expérimentation qui est conduite par Émilie Janin et Bœuf Éthique pose vraiment des questions intéressantes. Elle questionne surtout le milieu de l'abattage, l'industrie de l'abattage. Elle va peut-être permettre d'ouvrir la boîte noire de son économie aussi. Donc ça me paraît tout à fait intéressant.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de vous pencher aujourd'hui sur la question des biocarburants.
Oui, alors que la hausse de la fiscalité sur le diesel et sur l'essence provoque l'incompréhension et la colère que l'on sait, certains sont tentés de présenter ces carburants produits à partir de matériaux organiques tels que le colza ou l'huile de palme comme une solution miracle, économique et écologique. Il faut dire qu'outre l'image verte dont ils bénéficient, ces carburants présentent l'avantage d'être très bon marché. Le bioéthanol coûte ainsi 50 à 60 60 centimes d'euros le litre à la pompe, soit trois fois moins que l'essence classique.
Un avantage écologique qui ne serait pourtant qu'une illusion, selon Greenpeace.
Oui, pour l'association de défense de la nature et de l'environnement, se tourner vers les biocarburants ne ferait en réalité que déplacer le problème. L'association récuse d'ailleurs l'emploi du terme biocarburant, volontairement porté par les industriels pour véhiculer cette image écolo, et préfère parler d'agrocarburant, qui indique bien l'origine agricole de ces produits. Car c'est bien là que le bât blesse, comme le souligne Greenpeace, les fabricants d'agrocarburants ne prennent en compte que les émissions directes liées à l'utilisation des véhicules. Or, il faut également intégrer les émissions indirectes liées au changement d'affectation des sols. En clair, la déforestation et la destruction de prairies pour planter du soja ou des palmiers réduisent la capacité de stockage naturel du CO2. Il n'y a donc pas de baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais bien un transfert et parfois même une hausse de ces émissions. Ainsi, les biodiesels émettraient 4% de plus que le diesel ou l'essence, soit l'équivalent de 12 millions de voitures supplémentaires sur les routes européennes en 2020.
Le biodiesel à base d'huile de palme serait même trois fois plus polluant que le diesel fossile.
Oui, en cause toujours les ravages de la déforestation liés à l'exploitation des palmiers à huile, en Asie du Sud-Est notamment. Or, bien loin de chercher à réduire le recours à l'huile de palme, le gouvernement tergiverse sur cette question. En atteste le désordre il y a deux jours lors de l'adoption d'un amendement visant à exclure l'huile de palme de la liste des agrocarburants contre l'avis du gouvernement. Ce dernier a tenu à rappeler l'importance des enjeux en termes d'emploi liés à l'exploitation des agrocarburants en France.
Il faut dire que cette question est devenue particulièrement sensible avec l'autorisation qui a été donnée au groupe Total d'exploiter la bioraffinerie de La Mède.
Oui, le géant français s'est ainsi donné pour objectif de produire 500 000 tonnes de biodiesel par an, une transformation qui signifierait l'importation de 300 000 tonnes d'huile de palme et nécessiterait l'embauche de près de 250 personnes. La logique est donc toujours la même, on se lance dans des projets socialement ou écologiquement insoutenables avant de brandir l'argument économique d'autorité pour empêcher tout retour en arrière. On rappellera toutefois qu'entre 1990 et 2015, la superficie forestière mondiale a été réduite de 130 millions d'hectares, soit l'équivalent de deux fois la superficie de la France.
Le gouvernement vient pourtant de présenter une stratégie de lutte contre la déforestation importée.
Oui, cette stratégie vise explicitement à réduire la déforestation causée par nos importations de produits forestiers ou agricoles non durables. Le problème, comme l'expliquent les associations, c'est que le document ne contient que des mesures incitatives et non contraignantes visant à modifier les comportements. Il prévoit ainsi la mise en œuvre d'une plateforme nationale de lutte contre la déforestation qui aura la mission d'élaborer un nouveau label pour aider les consommateurs dans leurs choix. Des impératifs contradictoires et un changement fondé sur la bonne volonté des acteurs privés qui inquiètent les associations qui voient dans ces décisions les palmes de l'hypocrisie.
Merci beaucoup Arjuna Andrade. Je rappelle que votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
If you can... Going, that's why you're gonna end up. If you keep going, that's why you're gonna end up. If you keep going, that's why you're gonna end up. Like a lamb at a slaughter, I'm your lord of bloody boys like you. Just a band of why you. There were bullies. Now they are back in the arms of mommy. So if you keep going that way, you're gonna end up. If you keep going that way, you're gonna end up. If you keep going that way, you're gonna end up. Like a lamb at a slaughter. Go back home, boys. Go back home, boys. Mama is back.
Oh.
The Lamb and the Slaughter de The Skeleton Band. Merci beaucoup Amandine Gauthier et Anne Deloisy de nous avoir éclairé sur la réalité des abattoirs en France. Anne Deloisy, je rappelle votre livre Bon appétit quand l'industrie de la viande nous mène en barquette, publié aux presses de la Cité. On se retrouve demain pour une émission consacrée aux relations entre l'homme et l'animal. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.